BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Thomas Asportas.
Allez, 18h sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus dans Good evening business. On est en direct jusqu'à 19h dans l'actualité ce soir. Bon, on a ce pavé dans la mare lancé aujourd'hui par Patrick Pouyanné, le patron de Total, et si Total Energy quittait Paris pour Wall Street. Le patron de Total dit que la question se pose parce qu'il y a de moins en moins d'actionnaires européens à son capital et de plus en plus d'actionnaires américains. Ça promet de faire réagir nos experts ce soir dans Good Evening. Avec eux, on va aussi parler de l'inflation américaine. Les derniers chiffres sont tombés cet après-midi, ça ne baisse plus. On a aussi appris hier que la croissance du premier trimestre a été plus faible que prévu. Est-ce qu'il y a un souci ? Un début de souci avec l'économie américaine à quelques jours de la prochaine réunion de la Fed, ce sera la semaine prochaine. Et puis, il y a un souci aussi avec la dette de la France, on sera fixé ce soir avec le verdict des agences de notation américaines, justement Fitch et Moody's. Mais au fond, est-ce que ce serait si grave si la dette française devait être dégradée ce soir ? Pour répondre à toutes ces questions, on débat dans 10 minutes avec Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, François Girolf, économiste à l'OFCE, Frédéric Farah, économiste et enseignant à Paris 1, et Emmanuel Kessler, journaliste économique du Beau Monde pour débattre de l'actu. C'est parti, good evening, on est en direct jusqu'à 19h.
Good evening business, le journal.
Et donc c'est la petite phrase qui fait réagir aujourd'hui ce pavé dans la mare de Patrick Pouyanné chez nos confrères de Bloomberg. Il envisage, dit-il, de coter son entreprise principalement à Wall Street. Bonsoir Étienne Braque, vous êtes à Euronext. Jusqu'à preuve du contraire, Total Energy est aussi toujours coté, mais jusqu'à quand ? Et puis surtout, quels sont les arguments de Patrick Pouyanné, Étienne ?
En tout cas, c'est une nouvelle qui tombe au plus mal, hein, surtout à l'heure où Paris devient la première place en Europe, à l'heure également où l'Europe veut unir les capitaux, et ben, ça tombe très mal, hein, d'autant plus que Total Energy est sur des plus hauts historiques en bourse, hein, c'est 160 milliards de capitalisation boursière, c'est la quatrième plus grosse entreprise cotée ici à Euronext Paris, mais un groupe qui constate, hein, avec ces statistiques, qu'il y a de moins en moins d'actionnaires européens. Rendez-vous compte, en l'espace de 10 ans, ils sont passés de 51% ses actionnaires européens à 44%. Et cette place, elle a été prise par les actionnaires nord-américains qui sont passés de 30 à 40% avec, bien sûr, une politique ISR, ESG, eh bien, qui fait l'impasse, hein, sur les valeurs pétrolières. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, ils constatent que l'action Total est une opportunité parce qu'elle est sous-valorisée par rapport aux géants que sont ExxonMobil et puis, bien sûr, l'ensemble des géants américains du pétrole. Alors la nouvelle sera confirmé avec notamment le conseil d'administration qui rendra sa décision en septembre. En tout cas, si elle doit se confirmer, Total suivrait les pas de Linde, hein, souvenez-vous, géant mondial des gaz industriels qui était coté au DAX à Francfort et qui a quitté il y a un an la bourse de Francfort pour New York. Et rendez-vous compte, depuis, son titre a pris plus de 20%.
Effectivement, ça doit peut-être donner des idées à Patrick Pouyanné. Merci beaucoup, Étienne Braque. Et puisqu'on parle d'énergie et de pétrole, le ministre de l'Énergie, Roland Lescure, était ce matin à Sens, dans l'Yonne, chez Technip, pour annoncer que la France se mettait au stockage de carbone. C'est censé être l'une des solutions les plus prometteuses pour réduire nos émissions de CO2 dans le pays. Et la France, d'après le ministre, aurait un potentiel immense en la matière. On l'écoute.
Oui, la capture de carbone, on va en faire en France. Oui, le stockage de carbone, on va en faire en France. On a appelé les entreprises qui souhaitent capter et stocker du carbone à venir nous voir pour nous proposer des projets de test. Pour qu'on aille dans les gisements d'hydrocarbures qui sont présents en France aujourd'hui, oui, on avait un peu de pétrole en France, à peu près de quoi répondre à 1% de notre consommation, pour tester ces sites, pour voir si on ne peut pas y stocker du carbone. Et donc, on a annoncé ça aujourd'hui. Dès 2025, on va tester 4 ou 5 sites pour voir si on peut y stocker du carbone. Et en 2026, peut-être 2027, on va commencer à stocker du carbone en France.
Le ministre de l'Énergie, Roland Lescure. Et puis, c'est un petit coup de tonnerre qui a frappé l'industrie allemande aujourd'hui, puisque le numéro 1 de la sidérurgie allemande ThyssenKrupp cède 20% de ses activités acier au Tchèque Daniel Kretinsky, qui pourrait même très vite monter jusqu'à 50%. Le sidérurgiste allemand, qui compte quand même 27 000 salariés, est en grande difficulté depuis plusieurs années. Alexandra Paget.
surproduction mondiale d'acier, coûts trop élevés face à la concurrence chinoise notamment, et comme tout le secteur, explosion des coûts de l'énergie. ThyssenKrupp, dont la palette de produits s'étend de l'acier au sous-marin en passant par les matériaux de construction, ne parvient pas à s'adapter à un marché de l'acier en pleine mutation et a dû se séparer de sa très rentable division ascenseur pour plus de 17 milliards d'euros pour renflouer ses caisses. Ça n'a pas suffi, le numéro 1 allemand de la sidérurgie a dernièrement annoncé un plan de réalignement structurel, une importante réduction de ses capacités de production et donc des suppressions de postes sur son site historique de Duisbourg dans la Ruhr, la plus grande aciérie d'Europe. Trop gros, trop vieux. Depuis quelques années, le conglomérat cherche à s'adosser à un partenaire financier solide pour parvenir à se réinventer. Daniel Kretinsky est peut-être celui-là. Il est déjà très présent dans le secteur de l'énergie. Il a bâti sa fortune en achetant notamment du charbon et des centrales électriques à des entreprises européennes qui s'en débarrassaient pour investir dans des énergies moins émettrices de CO2. Avec ThyssenKrupp, il dit vouloir investir dans la décarbonation de l'industrie sidérurgique.
Alexandra Paget, dans l'automobile à présent, ça cale un petit peu en ce moment, vous le savez, dans la voiture électrique. Et ça nous a été confirmé ce matin par le patron de ST Microélectronique, Jean-Marc Chéry, qui était l'invité de la matinale. Il nous dit que le ralentissement de la voiture électrique se voit dans ses résultats du premier trimestre. On l'écoute.
Il s'est avéré en T1 qu'il a commencé à avoir quelques turbulences, notamment sur la voiture électrique et notamment sur un des grands constructeurs de la voiture électrique. Donc on a été un peu impacté à ça. Aujourd'hui, les perspectives, c'est quoi? C'est soit zéro, soit une légère croissance sur l'automobile. Bon, c'est pas non plus une catastrophe. Maintenant que le marché, et ça je vous l'avais déjà dit, du véhicule électrique, qui rentre un peu dans une turbulence, jusqu'à temps que les consommateurs soient convaincus que il y aura les infrastructures de charge qui vont bien, que la valeur de seconde main du véhicule électrique est meilleure, que le coût d'achat de la voiture électrique est plus bas, bah oui, ça va rentrer dans quelques turbulences. Bon, bah là, on s'est pris ces turbulences, on les gère.
Et puis pour finir, puisqu'on parle de voiture électrique, vous savez qu'en ce moment, c'est la grand-messe de la voiture électrique chinoise au Salon de Pékin jusqu'au 5 mai. Et parmi les centaines d'exposants présents sur place, il y a un certain Leap Motor, une start-up dans laquelle Stellantis a investi il y a quelques mois 1,5 milliard d'euros. Pauline Ducamp est sur place pour BFM Business à Pékin et elle est allée à leur rencontre.
D'un côté, un grand SUV familial électrique, le C10. De l'autre, une petite compacte électrique, la T03. Ces deux modèles présentés sur le stand du constructeur Leap Motors au Salon de Pékin vont arriver en Europe à partir de septembre. Alors cette semaine, le partenaire stratégique et exclusif de la start-up pour l'exportation à l'international, Stellantis, a d'ailleurs réuni ses concessionnaires en Europe pour leur présenter la marque, les modèles et tenter de construire un réseau de distribution. Si la technologie et la motorisation électrique viennent de cette start-up fondée en 2015, la distribution à l'international, elle est pilotée en exclusivité par Stellantis. Stellantis a en effet pris 21% de la start-up en Chine en fin d'année dernière et possède la majorité de la co-entreprise qui permet d'exporter les véhicules. Le but de cette association pour Stellantis, c'est de limiter les risques sur ce marché des nouveaux véhicules électriques avec des nouvelles technologies qui arrivent en permanence, de nouveaux modes de fabrication de plus en plus innovants. Il y a une question qui reste à trancher, c'est celle de la fabrication. Aujourd'hui, les voitures, elles sont faites en Chine, elles sont exportées depuis la Chine vers les marchés étrangers. Que se passera-t-il si les taxes et les droits de douane augmentent en Europe? Tout est sur la table, nous dit Leap Motors, même si rien n'a encore été décidé, pour pourquoi pas une éventuelle production en Europe avec l'appui de l'outil industriel Stellantis.
Pauline Ducamp au Salon de Pékin pour BFM Business. 19h09, on retourne sur les marchés. Les marchés, on retourne à la Tour Euronext avec Étienne Brac. Rebonsoir Étienne, à part Total Energy, comment est-ce que la semaine se termine à Paris?
Dans le vert, que ce soit en séance, mais aussi sur l'ensemble de la semaine, vous avez un CAC 40 qui progresse et qui est à la porte des 8100 points, 8088 points. C'est une hausse de 0,90% ce soir à la clôture, avec certes une inflation aux États-Unis qui est ressortie supérieure aux attentes à 2,8%. Mais figurez-vous qu'en face, vous avez des sociétés qui ont dévoilé tout au long de la semaine des résultats robustes et ça permet de contrebalancer ce risque macroéconomique. Quand vous regardez aux États-Unis, Alphabet qui gagne plus de 10%, Microsoft qui gagne 4%, la Bourse de Paris qui n'est pas en reste. Regardez Saint-Gobain qui gagne plus de 6% ce soir à la clôture. Total Energy après ses résultats sur un record historique à la porte des 70 euros. Vous avez également des investisseurs qui reviennent sur les publications de ces derniers jours. Schneider ou encore Hermès qui gagne plus de 2% ce soir à la clôture. Et puis Orca 40 et Ramed qui relève à la hausse ses prévisions pour cette année. La valeur s'envole de 11%. Donc des résultats d'entreprise qui ne sont pas forcément records, mais dans l'ensemble des sociétés qui sont prudentes et surtout confiantes. Et ça plaît à la Bourse et un CAC 40 qui figurez-vous, est à moins de 150 points de ses plus hauts touchés en début d'année, grâce à une hausse de 0,9% ce soir à la clôture.
On finit bien la séance et la semaine. Merci beaucoup Étienne. On jette un coup d'œil au marché américain. Vous parliez des valeurs américaines tout à l'heure. Le Dow Jones gagne 0,42% à 38 245 points. Le Nasdaq, quant à lui, est aussi dans le vert et nettement dans le vert. On gagne 2% à 15 928 points. Évidemment, les 10 points gagnés par Alphabet n'y sont pas étrangers.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Les experts du soir sont là, ils sont nombreux pour finir la semaine. Quatre experts en plateau autour de la table. On est gâtés. Xavier Patrolin, bonsoir.
Bonsoir.
Président d'Albatros Capital, à vos côtés, Emmanuel Kessler, bonsoir.
Bonsoir.
Économique. Et face à vous, François Gérolf, économiste à l'OFCE, bonsoir.
Bonsoir.
Et Frédéric Farah, économiste bonsoir. Et enseignant à Paris 1. Messieurs, on va commencer par la dette de la France, évidemment, c'est le sujet du jour. On se demandait quand est-ce que le verdict allait tomber. C'est dans la soirée, on n'a pas l'heure exacte, ça devrait être autour de 22h. On va faire le point d'abord avec Camille Bourg qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Camille.
Bonsoir Thomas.
Fitch et Moody's donc vont rendre leur verdict tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui très concrètement?
Alors l'agence Fitch avait noté la France AA- il y a un an, Moody's AA2 à la même période. Et ce soir, les décisions sont attendues et redoutées par le gouvernement puisque la situation de nos finances publiques ne s'est pas vraiment arrangée depuis un an. On a la dépense publique la plus élevés d'Europe à 58% du PIB en moyenne. D'après le gouvernement, nous allons faire 1% de croissance, mais beaucoup moins selon la plupart des experts. Et puis, il y a eu le choc du début d'année, un déficit revu à la hausse au-dessus des 5%. Fitch juge peu ambitieux et de plus en plus hors de portée les objectifs de réduction des déficits avancés par le gouvernement d'ici à 2027. Cependant, elle a récemment indiqué qu'elle ne devrait pas abaisser de nouveau sa note. Toute nouvelle décision négative sur la note est conditionnée à une nouvelle hausse importante de l'endettement que nous jugeons improbable. Il faut donc plutôt surveiller Moody's. L'agence avait souligné fin mars que le déficit plus élevé que prévu en 2023 rendait à ses yeux peu probable le fait que le gouvernement puisse parvenir à réduire le déficit sous les 3% d'ici 2027.
Et très concrètement, Camille, si on est dégradé, est-ce qu'il y aurait des conséquences économiques?
Eh bien, peu Thomas, a priori, les raisons. Le pays est très solvable. Le patrimoine net des ménages s'élève à 20 000 milliards d'euros. On a un taux d'emprunt particulièrement bas par rapport à nos voisins à 3%. Et enfin, l'obligation française est très recherchée.
Merci beaucoup Camille d'avoir planté le décor pour nous tous. Alors messieurs, un petit tour de table très concrètement. Évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais est-ce que on risque grand-chose si la note est dégradée ce soir? Qui se lance?
Non, on risque rien.
Enfin, on risque rien.
Si, bon. Non, mais on risque rien d'un point de vue
économique, hein,
économique et financier immédiat, puisque tout ça est déjà plus ou moins, ça n'affole pas les marchés. La signature de la France est une bonne signature. Elle aura pas de mal à placer sa dette. C'est sur le plan politique et symbolique qu'on risque le plus. Voilà, oui. Moi je pense. Par ailleurs, il est possible que ce soit sans changement. C'est pas, il y a cette hypothèse. Plus difficile de ne pas avoir une dégradation. Et là, encore politiquement, ce sera un coup dur à quelques jours des européennes. Le 31 mai, quand il y aura la note de Standard & Poor's.
Alors, on sera une semaine des élections.
Ouais. Et là, on pense que Standard & Poor's, qui avait rien bougé la dernière fois, pourrait quand même là dégrader la note de la France. Donc, pour ce soir, je dirais, il n'y a pas de dégâts économiques à attendre de cette histoire-là, mais c'est un révélateur politique et symboliquement, ce sera quand même quelque chose qui va souligner l'impasse budgétaire dans laquelle se trouve la France.
Xavier Patrolin, vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Risque politique, symbolique, mais pas économique ou financier?
Oui, dans l'instant, mais il y a quand même un risque économique sous-jacent, parce qu'au fond, plaçons-nous dans une perspective, on va dire, on va faire un scénario mitigé. Fitch ne bouge pas et Moody's passe de stable à perspective négative. Au fond, reporte le downgrade, l'abaissement de signature à septembre, fin de l'année.
Ouais.
Parce qu'ils attendent un certain nombre de réalisations.
C'est un scénario assez probable, hein, voilà. Que vous donnez là. Ouais.
On a quand même juste derrière.
Le budget notamment, en fin
Voilà. On a quand même entre-temps. Entre aujourd'hui et septembre ou la fin d'année, on a les élections européennes. Et après les élections européennes, ça tombe bien, la Commission européenne va réactiver probablement les procédures de déficit excessif. Bon, on ne va pas s'avancer, mais la France sera placée sous procédure de déficit excessif.
Et là, pour le coup, comme la moitié de l'Europe.
Oui, Mais peut-être que la situation politique française, qui est déjà assez particulière depuis le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, sera dégradée un peu plus post-élection européenne. Donc ce qui fait que du point de vue des agences de notation, si on doit mettre en place un dispositif de réforme plus fondamentale budgétairement, il n'y a pas de réalité politique pour les mettre en œuvre. Donc ça veut dire que du point de vue de Moody's, les engagements du gouvernement seront peu crédibles et à ce moment-là, le downgrade s'exécutera. Ouais. Donc au fond, ça a quand même des conséquences puisque ça veut dire que les marges de manœuvre dont vont disposer le gouvernement actuel et les futurs gouvernements au niveau du solde primaire. Le solde primaire, c'est avant paiement des intérêts, c'est en train de se réduire drastiquement. Bon. C'est-à-dire qu'au fond, le déficit est complètement pesé, attiré comme une force de pesanteur par la charge financière. Mmh. Et ça, c'est quand même, du point de vue du moyen terme, c'est quand même quelque chose qui va finir par perturber un certain nombre d'investisseurs.
C'est juste intéressant de voir, par exemple, que la Grèce, si je ne me trompe pas, est revenue en excédent primaire.
Oui.
Si on enlève la charge de la dette, elle a réussi à dégager un excédent budgétaire.
Ouais,
c'est pas du tout le cas de la France.
Mais être en excédent primaire ne nous garantit rien, parce que on voit bien que l'Italie est en excédent primaire depuis bien longtemps et elle paye des intérêts qui sont quand même
4 fois le PIB, 4% du PIB.
Voilà, donc comme quoi on peut être un bon élève et on n'obtient pas la bonne récompense. Finalement, être vertueux ne conduit pas toujours à la bonne direction. D'autre part, je dirais qu'il faudrait prendre cette affaire en lui donnant une certaine profondeur, mais comment ? En macroéconomie et en politique budgétaire, on dit, dans la politique budgétaire, il y a des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux. Les objectifs intermédiaires, c'est la maîtrise de la déficit et des dettes. Les objectifs finaux, par exemple, c'est la croissance et l'emploi. Bizarrement, en Europe, depuis 30 ans, nous sommes gouvernés par des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire la maîtrise de la dette et des déficits. Comme si, finalement, ces objectifs finaux disparaissaient derrière ça. Alors moi, je pose la question. Est-ce que, avec cette obsession qui est surtout dans tous les esprits, est-ce qu'on peut attendre de pouvoir réaliser des objectifs ambitieux? Alors, les objectifs ambitieux, je les énonce. 1, maintenir notre état social. 2, faire des investissements d'avenir pour la transition énergétique. 3, lié à l'état social, faire face au vieillissement de la population. 4, le réarmement militaire dont tout le monde parle. Alors, je voudrais bien savoir comment on peut avoir ça comme obsession comptable et en même temps se dire, en faisant des grands discours très pompeux à la Sorbonne, que nous voulons restaurer, affronter les défis de demain. Donc moi, je me dis, il y a d'accord la question financière à regarder, mais en même temps se dire qu'il ne faudrait pas que les objectifs finaux, qui demandent beaucoup de dépenses, je veux dire la transition énergétique, l'état social, soient oubliés. Et j'ai l'impression que nous sommes trop, depuis tant d'années, gouvernés par ces objectifs intermédiaires. Et ça me pose problème.
Oui. François Gérol.
Et peut-être une vision trop comptable de l'économie, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on sait faire. En tout cas, on discute du budget, il y a des chiffres. Je pense que l'aspect agence de notation, c'est aussi, on met une note, il y a quelqu'un d'extérieur qui regarde la situation de la France.
C'est les notes américaines,
des anglo-saxons.
C'est les notes des campus américains.
Voilà, exactement.
Oui. Les notations anglo-saxonnes.
Exactement. Oui. Et je pense qu'il y a ce côté-là, le gouvernement a l'impression d'être noté, en quelque sorte, par un observateur extérieur au monde politique français, et qui lui dresse comme ça des bons et des mauvais points. Après, c'est vrai que ces notes, moi, je pense qu'on peut-être qu'on en parle un petit peu trop, c'est peut-être un mauvais exemple ce qu'on fait ce soir, mais c'est vrai que par rapport à ce que les agences de notation ont été capables de ne pas voir dans le passé, c'est-à-dire on se rappelle la crise des subprimes, les agences de notation n'avaient rien vu voir, c'est-à-dire elles ont dégradé au moment où la crise était déjà là. La crise de la zone euro, au contraire, elles ont joué plutôt un rôle de mettre de l'huile sur le feu, et à mon avis c'est en particulier pour ça qu'on en parle autant aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, elles avaient effectivement un pouvoir assez énorme, puisque la Banque Centrale Européenne utilisait presque exclusivement les notes des agences de notation pour refinancer les États au guichet de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est-à-dire qu'il y a des modèles internes qui sont utilisés de manière interne à la Banque Centrale Européenne. Il y a des modèles qui sont développés dans les banques centrales nationales. Donc, de cet ordre-là, on s'est plus dans les agences de notation. Et du coup, c'est vrai que leur poids, il est peut-être un peu moindre que ce qu'il était à l'époque.
Oui, c'est la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire qu'effectivement, quand la note est dégradée, on voit que ça ne change rien à notre taux et que ça change rien à l'écart de spread. Donc on se demande effectivement
si les agences de notation ont toujours un intérêt ou pas.
Ce que je comprends de ces notations, c'est que quand la note est dégradée, on passe d'un 18 sur 20 à 17 sur 20. On n'est quand même pas, on n'est pas dans une situation catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une économie française solide, un patrimoine national, une épargne des ménages, etc. Bon, néanmoins, moi, il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, Frédéric, c'est que vous dites, les objectifs finaux finissent par être effacés parce qu'on regarde les objectifs intermédiaires. Mais le problème, c'est que ces objectifs intermédiaires, s'ils ne sont pas remplis d'une certaine manière, ben, il nous ôte des marges de manœuvre pour aller vers les objectifs finaux. Parce que quand on rembourse aujourd'hui par année 50 milliards de charges de la dette, en 2027 peut-être 80 milliards, c'est-à-dire que ça devient le premier budget de l'État devant la défense, devant l'éducation nationale, on se prive de marges de manœuvre pour investir dans l'avenir, le numérique, la transition écologique, l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est une question, par ailleurs, c'est très bien de dépenser beaucoup pour un modèle social, mais est-ce que c'est une dépense efficace ? Et donc, à force de dire on peut s'endetter, on s'en fiche, etc., etc., le problème c'est que on ne compte pas la dépense, mais on regarde pas l'efficacité, l'efficience de la dépense. Et ça me semble un véritable problème.
Moi je suis entièrement d'accord qu'il faut regarder l'efficience de la dépense. Ouais. Et je pense que ça n'empêche. Enfin,
puis on peut pas dire non plus que le gouvernement a été obsédé par la tenue des comptes depuis 2017.
Non. Je dis pas ça.
Vous craignez ça, Frédéric Farah, que le gouvernement jusqu'à soit présent, obnubilé par la tenue des comptes et que ça nous empêche d'investir. Mais en vérité, le gouvernement parle avant tout plein emploi, réindustrialisation, taux d'emploi, etc. Les comptes publics, on peut pas dire que ce soit l'obsession d'Emmanuel Macron depuis 6 ans, 7 ans. Là, c'est parce qu'il y a le feu maintenant qu'il s'agit.
Si on regarde ce qu'on s'attend à faire dans les 5 prochaines années, le différentiel avec les États-Unis est quand même très très frappant. C'est-à-dire, les États-Unis ne s'attendent pas du tout à réduire leur déficit, leur déficit primaire, leur déficit total. Ils s'en fichent complètement. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on se fixe des objectifs très ambitieux. Je pense qu'on va pas les remplir, pour être honnête. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'arrivera jamais à descendre à 3% en 2027. Ça me semble assez impossible. Mais on va essayer de les remplir.
Parce qu'on sait pas faire l'économie dans le
pays? Parce que c'est très difficile. En réalité, vous savez, économiser 50 milliards quand on voit le mal qu'on a déjà à trouver 9 milliards et quand on sait que c'est de plus en plus difficile à mesure que vous augmentez les économies à faire, si on doit vraiment trouver 50 milliards, je vous assure que
mi-février,
on devrait trouver 10 milliards cette année et 20 milliards l'année prochaine.
C'est ça,
je crois que la marche est très très
et à la fin 50 milliards. Sur 1600 milliards de dépenses publiques totales.
Oui, mais alors attention, parce que 1600 milliards de dépenses publiques,
Paraît beaucoup comparé à nos habitudes, mais comparé au stock de dépenses.
C'est un peu surestimé, parce que vous voyez, quand vous faites, par exemple, quand vous taxez une entreprise, puis que vous lui donnez un crédit d'impôt, vous allez mesurer le crédit d'impôt, en fait, en dépenses publiques. En fait, il y a plein de choses dans les dépenses publiques qui sont très difficiles à comprimer. Donc, le 1600 milliards, à mon avis, il est fortement surévalué. Après, on peut discuter de certaines dépenses, mais on voit que chaque fois qu'on essaye de s'attaquer à une dépense, alors on peut parler des retraites, on peut parler de plein de choses, on voit que, de l'assurance chômage, mais à chaque fois on parle d'un milliard et c'est extrêmement difficile.
On a passé notre temps, je veux dire quand même, à réformer dans tous les sens. Je veux dire, j'ai l'impression que on a oublié des choses. Non, mais c'est fou. Je veux dire, notre état social, il a été réformé, mais dans tous les sens. Je veux dire, l'hôpital a supporté un nombre incalculable de réformes, la tarification à l'activité, on n'a pas arrêté. Le nombre de réformes qu'on a appliquées sur l'État, l'organisation, ses personnels, le marché du travail qui a supporté je ne sais combien de réformes. Aujourd'hui, ça me fait rire, par exemple, sur l'histoire de l'allocation chômage. Les gens, ils ont oublié qu'entre 92 et 2001, il y avait un machin qui s'appelait l'AUD, l'allocation unique dégressive, qui était ce principe qu'il fallait rendre dégressive les allocations, et finalement le bilan qui a porté tous les experts en 2001, ça marchait pas. Et c'est marrant, 23 ans après on dit « Ah ah, j'ai trouvé un nouveau truc !» Un truc qui est dégressif. Alors c'est bien
on parle pas de dégressivité.
Non, mais
c'est
elle est déjà installée, la dégressivité est installée.
Pour
mais c'est-à-dire que dans le fond, on a réformé tous azimuts. Moi, je m'interroge sur peut-être même la nature des réformes qui ont été conduites, et est-ce que finalement il n'y a pas un bilan de ces réformes à faire aussi, et qui peut-être n'était pas si bonne que ça.
Toujours, ouais. Est-ce que donc on voit bien quand même que c'est tendu vis-à-vis des agences. Est-ce qu'on mériterait d'être dégradé?
Oui, bien
sûr. Ouais.
Bien sûr.
On mérite d'être sanctionné. Nos comptes sont vraiment scandaleux.
Si on faisait un test à l'aveugle. Oui. Non, ça va être rigolo, mais on va faire un test à l'aveugle. Vous prenez tous les paramètres de l'économie française. Simplement, vous allez vous prenez tous les paramètres de l'économie française, mais vous allez juste rayer l'appartenance à l'Union européenne et à la zone euro.
D'accord. Donc, le fait de pouvoir se comparer aux autres.
Non, simplement. Mais non. La réassurance, c'est la notation que nous avons. C'est grâce à la réassurance européenne. Si on fait le même, si on fait un raisonnement France avec probabilité Frexit 10-15%, alors là, vous allez voir notre vraie note intrinsèque. On fait ce qu'on appelle des métriques. On prend la signature AA, on regarde dans le monde les métriques. On va prendre deux métriques. C'est très réducteur. On a très peu de temps. On prend deux métriques. On prend le déficit budgétaire et on prend le ratio dette sur PIB. Dans la catégorie AA, le ratio dette sur PIB était aux alentours de 50% à l'échelle mondiale. Pour AA, nous, on est à 100, 112, 113. Ouais, pour le déficit budgétaire, le métrique est compris entre 2,3 et 1,6. Pour la France, il était en 2023, il est à 5,5.
Pourquoi une telle clémence avec la France?
Parce que la France n'a pas fait défaut depuis plus de deux siècles.
Okay.
Donc, c'est une signature exceptionnelle à l'échelle mondiale. C'est, selon mes calculs, c'est la cinquième meilleure signature. Ouais. Et de surcroît, on est dans une zone euro où notre principal partenaire est strictement l'inverse de nous-mêmes. Donc, il dégage des excédents courants absolument spectaculaire. Nous, on a un déficit courant, il va retourner en excédent primaire. Et donc, en termes de fongibilité pour un investisseur qui est dans l'Arkansas ou qui est au Japon, eh bien, pour lui, un proxy de la dette européenne, c'est la dette allemande ou la dette française. Donc, il va juste appliquer un petit spread et les agences de notation vont s'engouffrer dans ce truc-là et vont juste décliner. Si vous voulez, les mecs qui notent dans les agences de notation, ils ont tout un raisonnement rationnel, mais enfin, au tout début, l'axiome de départ, où en est le spread? Et ils vont pas taper.
Ils sont pragmatiques.
Voilà. Qu'est-ce qui a fait la dégradation du spread dans le cas de la Grèce? Mais c'était la perspective du Grexit.
Oui, tout à fait.
Hein, c'était ça. Et les Allemands ont utilisé cette arme pour obliger la Troïka à procéder à une réforme Maus costaud. Mais si on avait un raisonnement simplement sur les éléments bilanciels de la France en rayant la mention France, je peux vous assurer que la signature ne serait pas celle que nous avons aujourd'hui.
Il y a peut-être très un clair. Point sur lequel François. On a bonne réputation, c'est que l'administration fiscale est très efficace, tout le monde le reconnaît. Ça, c'est important. La capacité à lever
l'impôt.
C'était
pas le cas de la Grèce à l'époque.
Exactement.
Hein, c'était catastrophique.
Voilà. Donc ça fait quand même une grande différence. Ouais,
mais le mouvement des Gilets jaunes est en train de nous dire qu'on est probablement arrivé à une asymptote et que le consentement à l'impôt commence à être en sur-régime. Et donc, il faut être très prudent sur ce truc-là. À mon avis, ce qui nous réassure aujourd'hui, c'est plutôt l'appartenance à la zone euro, le rôle de la BCE, et le fait que l'Allemagne fait strictement l'inverse. C'est-à-dire le ratio dette sur PIB de l'Allemagne est en train de décliner.
Et du coup, les investisseurs n'ont plus de dette allemande à acheter.
Et voilà.
Pour eux, le premier substitut.
Il y a un effet d'éviction.
Et on voit quand même que les pays du Sud, ce qu'on appelait les PIGS, aujourd'hui, on fait davantage d'efforts et reviennent davantage dans les clous de la trajectoire européenne. Donc, ce qui est incroyable en France, c'est qu'on n'est pas capable de faire cet effort qui fait qu'à certains moments, on pourrait creuser le déficit, mais à d'autres, le réduire, sans toutefois, avec une dépense publique record, sans toutefois avoir des services publics qui satisfont les Français. Et là, je veux dire qu'il y a un problème qu'on ne sait pas résoudre et les politiques ne le prennent pas à bras-le-corps puisque le message que fait passer Emmanuel Macron, c'est pas de hausse d'impôts, mais la baisse des dépenses publiques, je m'en fiche un peu.
J'aimerais savoir quand de 2000 à nos jours, si je prends 2000, pour ne pas prendre les années 90, alors, que l'on me donne une période de temps très précise où la France, au regard de la situation économique, était capable d'engager ces fameux excédents qui auraient servi pour les mauvais jours. Si on me donne une situation où la conjoncture ou l'époque le permettait, je suis preneur.
Vous avez la réponse, mais je vais se patienter deux secondes.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Dans la bonne humeur et dans l'expertise avec Frédéric Farah, François Gérolf, Emmanuel Kessler et Xavier Patrolin. C'est à vous, Xavier Patrolin. Frédéric Farah, vous attendez une perche avant la pause.
Oui, alors si on commence à partir de 2000, au fond, c'est un très bon exemple parce que, au fond, c'est l'avènement de l'euro. Si on prend à partir de l'avènement de l'euro, on va dire il y a trois séquences. Une première, 2000 jusqu'à Lehman Brothers. Si on regarde le déficit primaire de la France sur cette période-là, 2000 jusqu'à 2008, il est légèrement inférieur à 1,5%. Le reste du déficit budgétaire, c'est la charge de la dette. D'accord ? Donc on a, globalement, si on regarde hors charge de la dette, on a un déficit primaire qui est quasiment à l'équilibre. Okay. À partir de Lehman Brothers, il y a une chute. Une chute jusqu'au Covid. Cette chute correspond à un déficit primaire de 2%. Désindustrialisation, c'est-à-dire on amplifie la désindustrialisation des années 80 pour satisfaire aux exigences de l'euro, on va l'amplifier, on va avoir des phénomènes de désindustrialisation et chute de la partie industrielle dans le produit intérieur brut, qui fait que notre déficit primaire, c'est-à-dire hors permanent des intérêts, se stabilise aux alentours de 2%. Et puis il y a le satisfecit en 2019, on sort de la procédure de déficit excessif, on affiche un déficit global de 1,9, 1,8 je crois, et le déficit primaire est très faible et le reste c'est la charge de la dette. Et puis bing, deux chocs majeurs, le Covid plus le conflit russo-ukrainien, et là on reprend un point de déficit primaire en plus. Donc c'est-à-dire que actuellement la tendance moyenne du déficit primaire, c'est-à-dire hors permanent des intérêts, est aux alentours de 3%, et la charge de la dette, on ne le voyait pas parce qu'on avait le quantitative easing qui faisait l'illusion. C'est-à-dire la charge de la dette représentait un peu plus d'un point de PIB. Donc on avait un déficit global de 4. Aujourd'hui, la charge de la dette est en train de monter sur un déficit primaire de 3. Donc vous rajoutez 2,5 et vous avez un déficit global
à 5,5.
Voilà, 5,5. Mais le problème de fond, c'est la désindustrialisation, c'est-à-dire au fond à la sortie des années 70, à la sortie de l'économie de rattrapage, on a un positionnement dans l'économie mondialisée qui est mauvais en valeur ajoutée et qui fait qu'on rentre dans le phénomène du chômage structurel, on a un mauvais positionnement, ce qui fait que pendant un demi-siècle, on va avoir des déficits, on est le seul pays du monde occidental à avoir un demi-siècle de déficit budgétaire, pas un seul excédent budgétaire.
Ah oui, bien donc, sûr, depuis 74.
Derrière ce problème-là, il y a la désindustrialisation française. Donc, c'est ça qu'on n'arrive pas à adresser. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu scolaire, parce que là, on a les agences de notation qui on va gratter, faire du rabotage dans tous les coins.
Mais il y a une réalité derrière.
Mais il y a une réalité profonde derrière ça.
Il y a une réalité
voilà, c'est tout ce que je dis.
Je suis
Frédéric. Ah. Et après, on part aux États-Unis, parce qu'on a aussi de la macro à analyser là-bas.
Oui. Alors, sans prendre place, mais je vais réagir. Je te suis sur le diagnostic.
D'accord.
La désindustrialisation. Et tu évoquais l'euro. Lorsqu'on va se retrouver en juillet 2008, où, avec 1 euro, j'ai 1,60 dollars américains, n'est-ce pas ? Les années de l'euro fort pour notre industrie a été absolument calamiteuse. Donc on a vécu avec une monnaie
pour la France.
Pour la France.
Parce que pour l'Allemagne, ça ne pose pas le même problème puisqu'ils ont une compétitivité hors prix.
Voilà.
Mais nous n'avons pas nous avec la gamme de produits.
D'accord. Mais c'est le problème de la BCE avec sa fameuse politique qui est one size fits all, une taille unique pour tout le monde. Donc ça, la taille unique pour tout le monde, ça marche pas en tant que tel dans une zone pareille. Et donc le pire du pire dans cette désindustrialisation. La France a été souvent tentée par la stratégie low cost.
Oui,
c'est-à-dire...
Oui, non, mais vous dites la même chose. Là.
Voilà. Mais c'est pour cela que je pense que pour pouvoir agir sur la réduction de la dette et des déficits, il faut réfléchir sur la question comment on crée du revenu national.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. Et c'est ça la chose la plus
importante. Ce qui me semble important, c'est qu'on ne peut pas toujours attribuer la faute à des facteurs extérieurs, à l'euro, à la Banque centrale, etc. Je crois qu'il y a quand même une responsabilité
française
une addiction à la dépense publique. Vous parlez de l'industrie, mais et c'est vrai aussi que c'est corrélé, mais il y a quand même une dépense sociale qui est hors de contrôle pour une efficacité, encore une fois, qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc je ne dis pas qu'il faut se passer du modèle social français, tout le monde le veut, et il y a quand même une addiction à la défense qui fait qu'aujourd'hui, on en est à subventionner la réparation des pulls et des tricots quand ils sont... Voilà, donc c'est pas l'État providence, c'est l'État nounou. Voilà.
La conclusion, et après on part.
On a quand même un sujet qui n'est pas seulement macroéconomique, qui devient culturel.
De sérieux budgétaire du gouvernement actuel, je pense qu'une des raisons peut-être pour laquelle les institutions ne sont pas inquiètes, c'est que, comme vous l'avez rappelé dans le sujet, il y a beaucoup d'épargne des Français en face quand même de cette dette. C'est un point sur lequel la France, enfin les Français épargnent énormément. Ils épargnent beaucoup plus d'ailleurs depuis l'arrivée de Emmanuel Macron au pouvoir. Je pense en grande partie d'ailleurs parce qu'il a fait des baisses d'impôts, notamment sur les plus riches, qui épargnent plus de leurs revenus. Et donc, pour défendre un peu le sérieux budgétaire du gouvernement et le fait qu'il ne fait pas n'importe quoi, comme il a fait des baisses d'impôts quand même plutôt sur les plus riches, du coup en face vous avez une épargne privée qui a augmenté quand même énormément, d'environ 3 ou 4 points de PIB quand même problèmes de revenus et donc, c'est quand même un peu rassurant. Enfin, dans cette image assez inquiétante, je pense que c'est un point qui est quand même rassurant.
Alors, aux États-Unis maintenant, non, de partir aux États-Unis quand même. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion de reparler de la France.
Bien sûr.
Aux États-Unis, donc, on a deux indicateurs à commenter, à décrypter, à comprendre. L'inflation qui est tombée tout à l'heure et qui montre que ça ne baisse plus aux États-Unis. On est plus proche des 3% que des 2%. Et hier après-midi, la croissance américaine qui a été assez en deçà des attentes. Et comment vous regardez ces chiffres? Est-ce qu'il y a un souci en ce moment conjoncturel aux États-Unis, une économie qui se porte un peu moins bien que ce qu'on aimerait voir ou pas?
Je crois que c'est une économie qui a été chauffée au fer rouge et au fond, en termes qui a été stimulée budgétairement.
En surchauffe, comme dit le FMI,
absolument. Et qui est peut-être en train de faire une figure que font les jeunes pilotes de l'aéronaval quand ils s'entraînent pour les appontages. Ils font ce qu'on appelle un tech
appontage, c'est quoi? C'est quand on arrive sur le
porte-avions, c'est-à-dire ils font une pause puis ils remettent plein gaz. Avant, c'est juste le...
C'est ça l'appontage, ok, d'accord.
Vous voyez? C'est ce qui est en train de faire un touchdown puis un take-off. Touchdown, on touche le pont et puis on remet les gaz pour redécoller.
On a le porte-avions Ronald Reagan, dernier modèle.
Voilà, en plus. Et donc je crois que c'est ce qui est en train de se passer sur l'économie américaine. Au fond, c'est une économie qui reste extrêmement soutenue. Le chiffre du PIB, il faut le corriger du fait qu'on a une balance commerciale qui a contribué négativement de 1 point de PIB. Donc ça veut dire, si on corrige, évidemment, si on corrige cet élément-là, on aurait plutôt une croissance de l'économie américaine aux alentours de 2,6, 2,7 plutôt que ainsi. Premier point. Et deuxièmement, sur la composante inflationniste,
on a l'impression que ça bloque là.
Sur les services. Les
salaires alors, du coup?
Les biens manufacturés sont retournés sur leur régime qui précédait le Covid, donc ils sont légèrement en déflation, aux alentours de 2%, tandis que le régime d'inflation des services qui étaient aux alentours de 2%, pas négatif mais positif, actuellement, et le régime de croissance des prix des services est aux alentours de 5%. Tout simplement parce qu'on a un marché du travail qui reste pénurique, c'est-à-dire qui n'est pas retourné à sa situation pré-Covid, et donc ça maintient une pression sur les salaires. Et donc structurellement, c'est pour ça que j'étais assez surpris des commentaires de Jérôme Powell il y a 3-4 semaines, qui semblait pas du tout inquiet. Les éléments que j'ai à l'aune de ce que je peux mesurer.
Pas inquiet, mais visiblement il n'est pas prêt de baisser.
Donc il peut même y avoir, paradoxalement, il pourrait même y avoir, probablement un scénario très 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 excessif, mais on n'est pas à l'abri d'une hausse des taux au début de l'année.
Jamie Dimon.
Un tout petit coup de hausse des taux.
Jamie Dimon, il n'y a pas longtemps.
Parce que ils sont
petit coup de collier.
Et voilà, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup eu trop d'optimisme dans le marché obligataire.
Ça, ce serait une revanche de la BCE pour le coup. Si finalement, c'est elle qui baisse les taux en premier.
Elle n'a pas du tout la même structure inflationniste que les
États-Unis. Non, mais bien sûr. En termes de calendrier, on est parti bien après eux. Et finalement, on va peut-être baisser les taux avant.
Mais d'ailleurs,
l'inflation n'est pas la même.
Ça se voit dans les trajectoires d'inflation, que ce soit les inflations globales ou core, c'est-à-dire hors éléments volatiles, on voit que les trajectoires ne sont pas du tout les mêmes. La trajectoire européenne est beaucoup plus ramassée que la trajectoire américaine.
À l'intérieur des services, il y a beaucoup les loyers aussi. Donc à mon avis, il y a deux effets. La première, c'est quand vous avez énormément de demandes, comme vous avez dit, l'économie est en surchauffe, donc les biens qui sont produits uniquement localement, donc immobilier, loyer, enfin tout ce qu'on peut acheter, enfin qu'on peut pas importer par définition. Forcément, le prix augmente, le prix relatif augmente, et c'est d'autant plus vrai parce que comme la Fed a augmenté ses taux, la construction est en difficulté, donc assez paradoxalement, ça a tendance à augmenter les prix de l'immobilier et de la construction.
Et ça freine la mobilité sociale en plus.
En plus, voilà.
Donc, ce qui va être intéressant, on a l'impression d'être en France là quand on vous écoute.
Et ce qui va être intéressant aussi à regarder, même si c'est pas vraiment l'économie qui fait les scrutins aux États-Unis, c'est la traduction politique de ça. Est-ce que ce climat va peser sur l'élection américaine? Rendre encore plus complexe.
Joe Biden commente quasiment à chaque fois les chiffres de l'inflation.
Voilà, la réélection de Joe Biden ou pas. Enfin, c'est vrai que là, ça arrive dans un contexte où il faut regarder quand même ça de
près. Alors, est-ce que le futur locataire de la Maison Blanche va peut-être accueillir Total Energy à Wall Street? Ça, c'est le pavé dans la marque, lancé ce matin Patrick Pouyanné chez nos confrères de Bloomberg, en disant, regardez effectivement une possible cotation principale de son entreprise à Wall Street plutôt qu'à Paris. Et il dit, je dois être au plus proche de mes actionnaires. Et ce que je vois, la tendance, c'est que depuis 10 ans, j'ai de plus en plus d'actionnaires américains, de moins en moins d'actionnaires européens.
C'est vraiment la réelle politique, un patron sans complexe, finalement, au fond, il sait qu'en France, il est assez impopulaire, on veut taxer ses revenus, ses revenus personnels, son salaire, baisser son salaire ou caper son salaire, on veut taxer, faire des super profits. Donc j'ai presque envie de dire que maintenant, Total Energy sait qu'au fond, la bataille de la communication, même si en ce moment, il fête ses 100 ans en Europe et en France en particulier, elle est un peu perdue. perdu, que la réalité du marché se porte plus aux États-Unis, où il dit on accepte plus ma stratégie qui consiste à dire oui, bien sûr, je pense à l'énergie de demain décarbonée, mais je continue à faire de fossiles parce qu'il y a une demande mondiale. Quand il dit ça en France, il se fait au MEDEF, ça passe tant que c'est que au MEDEF, mais dès que c'est sur les réseaux sociaux, il se fait
taper. Encore même là-bas avec Jean Jouzel.
Et donc maintenant, il a plus de complexe, il y va, et au fond, il nous dit que Total ne sera peut-être plus, puisque finalement, on n'arrive pas à être fier d'avoir une entreprise française parmi les majors du pétrole, que demain on va officialiser le fait que c'est une entreprise américaine. S'il précise que pour l'instant le siège social va rester en France.
Ah oui, non, c'est ce qu'il dit. Il dit la cotation.
Ouais.
Parce que ce qu'il dit aussi, c'est que les majors,
mais est-ce
les majors
que c'est pas
sont une... beaucoup mieux valorisés à Wall Street.
C'est ça. Est-ce que c'est pas une les première bidas, étape les... Est-ce que c'est pas c'est aussi peut-être une forme.
Non, mais
c'est aussi peut-être un message. Il y a peut-être aussi un message subliminal qui est passé en disant. Quand même, n'allez pas trop loin dans l'énergie bashing ou dans le total bashing, parce qu'un jour, au-delà de l'implantation boursière, je pourrais faire basculer mon siège social.
Ça resterait une entreprise française avec beaucoup de salariés français qui resterait aussi performante. Ouais. Regardez Stellantis, le siège social est aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Mmh. Bon. Ça n'empêche pas l'entreprise de bien fonctionner. Vous n'avez pas trop
Oui, mais enfin, ça serait un affront terrible. Enfin, si vous mettez ça en regard, ça rentre en résonance avec le discours d'Emmanuel Macron hier prononcé à la Sorbonne. Ça serait un terrible. Vous pouvez pas penser l'Europe en tant que puissance économique au moment où l'une de ses plus grandes sociétés énergétiques, c'est la plus grande société énergétique européenne, française, mais européenne, irait se faire coter principalement aux États-Unis.
Mais
au départ, c'est l'absurdité des Européens. Parce qu'au fond, cette intervention subliminale de M. Pougnier, elle est une critique en creux de la norme ESG. Si vous êtes un investisseur institutionnel européen et que vous appliquez les normes ESG, les normes ESG, c'est développement économique, social, responsable.
Et les labels ISR en France.
Si vous avez une ligne totale, votre seule stratégie, c'est de la diminuer. Parce que c'est une société non conforme à l'ESG. Et si vous n'avez pas de ligne totale dans votre portefeuille, alors là, si vous vous pointez devant un comité d'investissement en disant « Ah, j'ai une super idée, les gars, Total, il y a une décote historique, c'est, j'ai tout en cash flow. Hein. » Les gars, mais vous êtes complètement timbré. Et c'est des actifs qui vont échouer à moyen terme, donc surtout, n'investis pas. Mais on n'est que 400 millions d'Européens, ne l'oublions pas. Il reste 8 milliards d'autres individus qui n'appliquent pas les normes ESG. Et principalement aux États-Unis.
C'est toute la faiblesse de l'Europe.
Mais c'est parce qu'on est, on est débiles mentales. C'est-à-dire qu'on
nous sommes des idiots utiles de la monnaie. On est débiles mentaux et en même temps, c'est peut-être aussi l'honneur de l'Europe que d'être en pointe.
Oui, mais c'est un honneur mortifère.
Mortifère, je ne sais pas. Parce qu'à un moment, quand on sera tous morts, parce qu'on ne pourra plus vivre sur la planète,
non, nous, on aura
au moins,
il restera les Européens. Et on pourra jouer une version du dernier des Mohicans en version européenne. Donc, ce qui sera un charme extraordinaire, c'est beau, comment dire, ce genre de charge héroïque et vaine.
Tout à fait vaine, parce qu'il y a eu quand même l'accord de Paris, parce que vous avez vu que Biden, Trump s'en était retiré, mais Biden est revenu dedans. Il y a quand même des avancées, puis on se rend compte qu'on n'a pas le choix. Voilà.
Oui, alors, c'est vrai que parfois, ce qui est bon pour Total n'est pas forcément bon pour la France, comme ce qui, à une époque, était bon pour General Motors, était bon pour les États-Unis. Mais je crois que c'est très intéressant dans cette affaire, deux choses. Alors tout d'abord, j'ai pas eu le temps de le dire, mais même si on peut s'interroger sur les États-Unis en termes de construction de politique économique ou macroéconomique, c'est beaucoup mieux que les Européens, parce que d'un côté on a resserré les taux, mais de l'autre côté on a ouvert le robinet budgétaire aux États-Unis comme des dingues, et ensuite et ça m'amuse parce qu'on a expliqué que les Américains ils étaient très polluants, étaient très méchants, ils font l'IRA, etc. Donc c'est très bien, et on dit non c'est pas bien parce que nous on sait pas faire la même chose. Bon, donc en termes macroéconomiques, la construction macroéconomique et le policy mix européen, il est nul à désespérer. Bon, mais ça, c'est autre chose.
C'est dit, et
je trouve que les États-Unis, en termes de politique économique, et la politique Monsieur Biden sera peut-être battu, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut pas lui reprocher, même si les Américains ont l'impression que leur pouvoir d'achat se porte pas si bien que ça et autres, mais en tout cas, le mix de politique économique qu'il a fait est plutôt bon que pas bon.
Merci à Jeannette Yellen.
Voilà, et on peut dire bravo là-dessus. J'aurais aimé que nous soyons un peu plus inspirés par eux en Europe, mais on n'y arrive pas. Bon, on est bêtement doctrinaire, on est bêtement dogmatique ici, et c'est génial. Bon, et il faut le dire. Maintenant, ce que fait M. Pouyanet en tant que tel, bah, il illustre un truc qui s'appelle la mondialisation, s'appelle la libre circulation des capitaux. Et donc,
il investit... c'est choquant, il manque quand même de, comme on dit, voilà, Total, c'est un fleuron français, est-ce que c'est choquant de dire
mais
ça
bon, on parlait du patriotisme économique.
Est-ce que c'est choquant?
Mais je crois que morale et économie, c'est l'histoire d'un divorce, non?
C'est une incompatibilité.
Oui, morale et économie, je crois que c'est l'histoire de la science économique, elle se sépare de la morale au fil du temps. Voilà, donc M. Pouyanet va là où c'est mieux pour lui.
Peut-être de façon plus pragmatique. Ah bah là, je ne peux pas aller sur ce terrain philosophique, mais c'est vrai qu'en plus, ces entreprises énergétiques, elles ont quand même à voir beaucoup avec l'État, la puissance militaire, la puissance géopolitique. Donc, pour moi, si le siège, vraiment, comme vous le suggérez, s'il pensait à déplacer son siège vraiment depuis la France.
Pour l'instant, il dit qu'il ne le fera pas.
Voilà, mais étant donné l'histoire de Total, on repense même, au départ quand même, c'est défendu par les militaires français. Enfin, je veux dire, c'est des conquêtes, de la colonisation, etc. Et on exploite les gisements. Et donc, c'est de là quand même que vient Total. Ça a été privatisé seulement récemment. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était Elf, c'est ça. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que faire ça, ce serait quand même extrêmement majeur. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'aussi, il est déçu par le niveau du cours de bourse de Total, étant donné le rendement, effectivement, qui est de l'ordre de 4%. Ça veut dire que le ratio du prix sur le profit est très très faible, en fait, pour une entreprise comme Total. Effectivement, peut-être qu'il a l'impression d'être sous-valorisé.
Il dit, moi, je suis valorisé 3,5 les EBITDA, voilà. Mes majors à Wall Street, 6,5.
Et donc, du coup, c'est vrai que pour
un moment, mes actionnaires américains, justement, demandent.
Je vois pas le problème, là.
Et ça le premier investisseur derrière les salariés, c'est BlackRock. Ça aussi, c'est quand même un symbole, du tout.
Et voilà, c'est pas un fonds de pension européen, c'est encore moins un fonds de pension français. Nous, on vient à l'Union
des marchés de capitaux.
Et je crois avoir dit sur ce plateau, il y a on a parlé de Total il y a 3-4 semaines, et j'avais dit que, puisqu'il y avait une interrogation sur sur les dividendes de Total, et j'avais dit qu'une très bonne solution, au lieu de surfiscaliser les surprofits de Total, aurait été de créer, le F2R existe, le fonds de réserve des retraites, de faire un panachage de la retraite par répartition avec un peu de retraite par capitalisation et d'avoir comme première ligne de ce F2R qui existe, mais qui est à portion...
Je croyais qu'il avait disparu.
Il existe toujours, juridiquement, il y a toujours des capitaux. D'avoir comme première ligne dans ce fonds de réserve Total. Et là, l'État, en tout cas le fonds de réserve, aurait pu exprimer une position. Mais ce n'est pas le cas. Donc on a loupé.
C'est pas le cas, mais l'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd pour la prochaine réforme des retraites. Voilà. Allez, c'est l'heure de l'extra time déjà. Les arrêts de Good Evening Business. Vous avez chacun 30 secondes pour regarder votre monde, François Giraud. Enfin, commencez par vous. 30 secondes pour coup de cœur ou coup de gueule de l'actu.
Un coup de cœur. Le rapport intermédiaire de Bozio et Wassmer, deux économistes, qui est sorti hier et qui réfléchit à remettre à plat les exonérations de cotisations sur les bas salaires. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on aille dans cette direction, parce que la France se singularise par à la fois un niveau du SMIC extrêmement élevé relativement aux autres pays, et en même temps un coût au niveau du SMIC pour les employeurs qui est très faible, et qui fait que qu'on encourage le travail non qualifié. Et je pense que c'est une mauvaise chose.
C'est la désmicardisation, là.
Voilà.
Exactement. Frédéric Farah, l'arbitre. Intransigeant. À votre tour.
Je compte bien. Coup de gueule, c'est le discours d'Emmanuel Macron pour une raison simple, parce que au-delà du fond, même s'il y avait des choses intéressantes, c'est cette forme très française de vouloir faire la leçon aux autres en permanence, et avec qui il veut faire cette fameuse Europe dont il parle. Et pour moi, c'est vraiment un vrai problème, parce que j'ai l'impression qu'il imagine trop l'Europe tout seul, en fait. Même s'il fait la leçon, et c'est tellement la méthode Emmanuel Macron, c'est-à-dire ça part de haut et on veut imposer autrui. Donc tout cela me fatigue.
On a bien compris. Merci. Même pas en 30 secondes. Emmanuel Kessler.
Petit coup de cœur pour vous inviter à suivre demain le Grand Prix de Monaco de e-Formule 1, c'est-à-dire la Formule 1 électrique.
Ouais.
Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça illustre, ça fait énormément de progrès en moins de 10 ans. Ça illustre la transformation de cette industrie. Et on nous explique, je suis pas un spécialiste, que toute l'inventivité qu'il y a là-dedans, avec maintenant des vitesses qui vont jusqu'à 280 km/h, l'intelligence artificielle, les logiciels, etc., on va la retrouver dans la voiture électrique de demain. Donc c'est un sport qui se réinvente, avec une industrie qui se réinvente. C'est intéressant à regarder, je trouve.
Bon, il me semblait qu'on avait une course aux Invalides. Hein. Je ne sais pas si on l'a toujours. Mais Monaco n'est pas la France. Ouais. Xavier Patrollin, pour finir.
C'est un petit coup de cœur pour les organisations de surveillance sanitaire qui s'intéressent de très près à la grippe aviaire, H5N1. Vous avez vu que tout récemment, l'OMS a émis un petit message d'alerte sur ce qui se passe aux États-Unis. La grippe aviaire est passée des oiseaux aux mammifères et il commencerait peut-être à y avoir des diffusion interhumaine, et donc ça nécessite une surveillance. Je rappelle que la grippe aviaire a eu depuis une vingtaine d'années le taux de létalité est pas loin de 50%, donc ça veut pas dire que il y a une épidémie qui est en train de s'enclencher, il y a peut-être
la semaine avec le Covid là.
Non, mais il y a quelque chose à être
très... on aurait dû inverser là pour terminer par
ça,
les bonnes
ça veut quand même juste dire que les autorités sanitaires depuis le Covid exercent une très grande vigilance et qu'il y a un gros travail, et il y a une situation un peu particulière au Kansas et au Texas, notamment sur les élevages de bovins. D'accord. Manifestement ça a été transmis aux bovins, et donc il faut suivre ça du coin de l'œil. Ça peut être un sujet de moyen terme.
Bon, effectivement, et on ne peut que se
réjouir. Bon week-end quand même.
Bon week-end quand même. Bon, il ne fait que commencer. Merci infiniment à tous les quatre, Frédéric Farah, François Gérolf, Emmanuel Kessler et Xavier Patrollin. Merci pour la qualité de ce débat et merci à vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez en direct ou en replay sur BFM Business. Bien évidemment, vous avez notre site internet, vous avez notre appli BFM Business qui est plus que parfaite pour nous réécouter, et puis vous avez les podcasts. Vous pouvez pas nous louper. Très bonne fin de soirée. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazzella. Et puis lundi, c'est Guillaume Paul. L'unique Guillaume Paul et Audrey Tcherkov de retour aux manettes. Bonne soirée, bon week-end sur BFM.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.